Louis. En 2018, quelques mois après le décès de Gisèle, un ami me conseille d'aller voir une pièce de théâtre. Le spectacle s'appelle Saigon. Le titre me suffit, je prends deux places et j'invite ma mère. On est dans la salle. Le noir se fait. Le rideau se lève. Silence.
Notre histoire commence en 1996 à Paris, au 18 rue du Faubourg Saint-Antoine.
Et là, sur scène, un restaurant vietnamien apparaît. Avec une cuisine, un karaoké, des néons, des tables en formica. La pièce commence. Très vite, je comprends qu'un personnage a le même parcours que ma grand-mère. Partie du Vietnam avec un militaire français à la fin de la guerre pour rejoindre la France. Le trouble commence et j'entends ma mère qui se gratte la gorge. Et puis à un moment, ce même personnage a un ictus amnésique. Elle se met à parler en vietnamien et ne sait plus qui sont les gens autour d'elle. C'est une sorte de crise de la mémoire qui fait qu'on perd la notion de l'espace et du temps. Son fils démuni lui crie « Parle-moi en français, maman, parle-moi en français, je comprends pas. » Cette seule scène révèle tout ce que je ressens. On ne se comprend pas et les fantômes n'appartiennent pas au passé. Dans la salle, l'émotion est palpable. Les ictus amnésiques montrent tout ce que l'exil a provoqué. Dans nos familles, on a tenté d'enfouir plein de choses et à un moment, elles veulent ressortir. Qu'est-ce qui s'est joué au moment de l'arrivée en France pour que tout soit mis sous le tapis? Et comment est-ce que nous, les descendants et les descendantes, avons appris à vivre avec? Je suis Anna Ebossère et vous écoutez Ma Tonkinoise, une enquête familiale dans les mémoires enfouies de l'Indochine française. Épisode 3. On débarque à Marseille. La pièce Saigon se joue à Paris, en 2018, au Théâtre de l'Odéon. Elle est écrite et mise en scène par...
Caroline Guillen-Guyen et je suis metteuse en scène, réalisatrice et autrice.
Caroline a comme moi des origines vietnamiennes. Sa mère est arrivée en France en 1956. J'ai voulu reparler avec elle des fameux ictus amnésiques.
En fait, un ictus amnésique, mais c'est totalement dingue. Hein. D'ailleurs, j'ai commencé, ça a été l'une des premières scènes que j'ai écrites. En fait, un ictus amnésique, c'est une déconnexion. En fait, c'est ton cœur qui bat un peu moins vite, donc ton cerveau qui est un peu moins oxygéné. Du coup, tu as une espèce de grand délire. Donc, il peut aller de 6 heures à, je crois, 24 heures. Moi, heureusement, ça a duré 8 heures. Mais pendant ces 8 heures, ma mère ne savait pas si elle était en France, si elle était au Vietnam, si on était en 1956, si on était en 1987, parce qu'elle ne sait plus dans quelle temporalité ni dans quelle géographie elle est. Elle me parlait vietnamien alors qu'elle ne m'a jamais parlé vietnamien. Je lui disais « Mais maman, mais parle-moi français, je ne comprends pas ce qui se passe. » Et ce qui est dingue, c'est que ça part. Et il n'y a aucune trace et tout va bien.
L'ictus amnésique est fréquemment déclenché par une situation de stress, physique ou psychologique, ou par un traumatisme.
Et en fait, quand j'ai rencontré un ethno-psychiatre, il m'avait dit « mais en fait, c'est fou parce que c'est beaucoup des choses qui arrivent au Viet Q. »
Particulièrement.
Particulièrement, ouais.
Caroline dit Viet Q. C'est un terme en vietnamien qui veut littéralement dire Viet, vietnamien, et Q, étranger. C'est donc celles et ceux qui sont éternellement vietnamiens et éternellement étrangers. C'est comme ça qu'au Vietnam, on désigne les diasporas qui vivent à l'extérieur du pays. La mère de Caroline en fait partie.
Ce qu'a vécu ma mère, ça a été d'une telle violence. Je pense qu'en fait, ça aurait pu déboucher sur une dépression. Non, en fait, c'était évident que c'était sous cette forme-là que ça allait dérouler. Et tu vois, ça raconte aussi quelque chose de la colonisation. Mmh. Ça raconte aussi quelque chose des gens qui ont dû quitter leur pays et partir, plus jamais le voir.
Quand est-ce que ces exilés décident de taire leur passé ? La violence dont parle Caroline, c'est celle de la colonisation, donc de la guerre, mais aussi de l'exil et des conditions d'accueil en France.
on débarque à Marseille.
Vous vous souvenez de Kim? Elle est née en Indochine et elle quitte son pays en 55. On l'a laissée sur le bateau à l'épisode précédent. Et bien la voici qui accoste en France.
Et là, hop, tu remontes l'échelle et on est dans des camions militaires. Et on nous a amenés dans un hôtel, le fameux hôtel Bompard, rue des Flots Bleus, à Marseille. Et voilà, et là on a débarqué. Je me souviens que j'étais émerveillée par les rues, tu sais, les rues et les maisons très hautes, la ville quoi, et du raisin. Il y avait des épiceries et je voyais le raisin. C'était la première fois de ma vie que je voyais du raisin.
Marseille, c'est aussi la ville où ma grand-mère Gisèle est arrivée et où elle a vécu une bonne partie de sa vie. Quand je pense à Marseille, je pense à son appartement, à la plage de l'Abricotier et à la vue quand on sort de la gare Saint-Charles. Mais Marseille, c'est aussi et surtout un grand port d'immigration. Depuis plus d'un siècle, il a accueilli Arméniens, Vietnamiens, Cambodgiens, Juifs pieds noirs, Algériens et tellement d'autres. C'est le port d'arrivée de Kim, de ma grand-mère et des 5000 rapatriés d'Indochine. Rapatrié, c'est le nom consacré, mais je préfère celui d'exilé ou d'expatrié. Parce qu'ils n'ont pas rejoint leur patrie. Ils ne connaissent pas la France et n'en maîtrisent ni la langue ni les coutumes.
Et ce qui m'a déçue, c'est de ne pas voir des Françaises habillées comme des Alsaciennes. Parce que pour moi, la France, c'était des Alsaciennes. Elles avaient le grand nœud noir, comme sur les paquets de biscuits. Donc vraiment, oh, j'étais déçue. Et puis j'étais déçue qu'il n'y avait pas d'arbres dans les rues. Pour moi, la France était la Normandie, qui avait des vaches et des pommiers, et puis les Alsaciennes. Donc j'étais vachement déçue, parce que je ne voyais pas ça du tout. Et puis ben voilà, on est arrivé à l'hôtel. On a dû rester quelques jours, le temps qu'on nous dispatche un peu partout.
Une fois arrivé dans le pays de destination, spoiler alerte, tout ne se passe pas comme prévu. Ma grand-mère s'installe en Alsace-Lorraine parce que son mari venait de Mulhouse. Ma mère me raconte.
Alors qu'elle avait ses petites chaussures, ses petites sandales, là, il faisait super froid, elle s'est gelée, elle n'avait pas de manteau. Et puis un mari qui était complètement éteint aussi parce que traumatisé par la guerre, donc comme beaucoup, beaucoup de gens qui reviennent de guerre, qui picolaient. Donc, c'était pas forcément joyeux. Et la belle famille qui la regardait comme une bête curieuse. Évidemment, comme elle était très apprêtée, pas eux, parce que à cette époque-là, bon, les gens, ils n'étaient pas forcément très apprêtés, en tout cas au quotidien. Et ben, elle a été regardée comme quelqu'un qui voulait séduire les hommes. Enfin, je suppose, ça, c'est mon interprétation.
Super tableau. Quand je l'imagine dans cette famille alsacienne, sans aucun contact avec sa culture ni maîtrise de la langue, j'ai du mal à saisir comment ça pouvait bien se passer. Ma grand-mère finit par divorcer. Elle se réfugie alors chez une amie vietnamienne, aussi mariée à un militaire français. C'est chez eux qu'elle s'installe et qu'elle rencontrera mon grand-père.
Il y a eu deux cas de figure.
Alain Ruscio, historien de l'Indochine française.
Lorsque le soldat, heureusement pour lui, était encore vivant, est rentré en France, bah, tout simplement, il réintégrait sa région d'origine et il emmenait avec lui sa famille vietnamienne, sa femme et ses enfants.
Ce premier cas de figure, c'est celui de ma grand-mère, même si à ce moment-là, elle n'a pas d'enfants. Et puis, il y a le cas de milliers d'autres.
Reste le cas des femmes qui avaient été abandonnées, ou des veuves, a fortiori, mais qui avaient malgré tout réussi à obtenir la nationalité française, ou leurs enfants avaient la nationalité française, donc elles pouvaient revenir en France. Donc, ces familles éclatées, en quelque sorte, ont été envoyées dans des camps. Celui que je connais le mieux, c'est celui de Sainte-Livrade, qu'on appelle le CAFI. Hein. CAFI, ça veut dire...
Centre d'accueil des Français d'Indochine.
Voilà, tout simplement.
Il y a 3 centres d'accueil des Français d'Indochine, dans l'Allier et dans le Lot-et-Garonne. Sainte-Livrade est l'un d'entre eux. Il faut vous imaginer. Ce sont d'anciens camps militaires, avec de longs baraquements, sans eau courante ni électricité. Ils sont alignés les uns à côté des autres, dans un espace fermé par des barbelés. C'est là que vont les familles qui n'ont pas de point de chute, comme celle de Kim, et de Caroline, la metteuse en scène. Elles vivent alors un autre choc.
C'est ici, sans hostilité, non plus que sans sympathie particulière, le camp des Chinois. C'est un ancien camp militaire dont les baraquements ont été aménagés pour y loger des familles, le plus souvent nombreuses, femmes, enfants et adolescents, formant la grande majorité de la population.
Je ne m'étendrai pas sur l'appellation « camp des Chinois », qui montre déjà l'amalgame total des communautés asiatiques. Mais par contre, j'aimerais qu'on s'arrête sur les conditions de vie sur place.
Et cette livrade, c'était le camp. Pour de vrai, hein, c'était vraiment incroyable. C'était
Kim.
Des baraquements en bois. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. On nous distribuait autant de cuillères que nous sommes, hein. T'avais pas une cuillère en plus. Et puis, tout est marqué, tu sais, et tu devais tout rendre. Hein. On était au moins 2000 dans ce camp. On était enfermés. Il y avait un mur, il y avait des barbelés, et on pouvait pas sortir du camp. Mais je sais que ça a été vraiment dur, parce qu'il faisait très froid. On n'avait pas de vêtements chauds. Ma mère a eu les pieds gelés. Elle est tombée malade. Et je crois que c'est là qu'elle a eu la tuberculose.
Je n'avais jamais entendu parler de ces camps avant mes recherches sur les exilés d'Indochine. Celles et ceux qui pouvaient avoir certains privilèges au Vietnam, du fait de leur proximité avec des Français, se retrouvent en France, complètement déclassée.
La pauvre maman croyait que, parce qu'elle est veuve de guerre, que parce que mon père est mort, on allait nous recevoir, tu sais, avec les fanfares. Ben non. Donc, je me rappelle, j'ai écrit au général de Gaulle, et j'ai dit combien mesurait la chambre d'hôtel. Mais je devais raconter ça, tu vois, comme une petite. Ce que ma mère dictait. Cher président, nous sommes très pauvres, tu vois, nous vivons dans une petite pièce. Voilà. Non, mais il faut que tu dises, je suis veuve de guerre, ton père est mort pour la France, tu es pupille de la nation.
La mère de Kim pensait que ce serait des sésames, une fois arrivée en France. Mais non.
Parce que c'est dur, et que ça n'a pas été facile d'arriver jusqu'ici, quand on est une fille, qu'on n'a pas de parents, on n'a pas d'argent, on a une mère... À charge, ma mère voulait me monnayer, si tu veux. Et c'est la chose la plus difficile de ma vie, quoi. Entre 14 et 16 ans. Et comment trouver de l'argent quand t'es une marchandise, quoi. Et que autour de toi, on aurait dit une meute de loups. Voilà, c'est pour ça que je voulais pas raconter que c'était dur, quoi, tout ça. J'avais ni faim ni froid et je n'existais plus. C'était l'enfer, quand même. On dit ça, mais c'est pour de vrai.
La mère de Kim est rentrée au Vietnam, de chagrin. Sauf qu'elle ne pouvait pas payer 3 billets retour. Elle a donc pris son fils et elle a laissé Kim en France. En tant que pupille de la nation, elle pouvait aller dans un foyer de jeunes filles. Elle y est restée jusqu'à ses 18 ans. Elle était la seule vietnamienne.
Puis après, tu déclenches de maladies psychosomatiques. Et tu te dis, ah, mais pourquoi ça me gratte? Pourquoi j'ai mal? Et pourquoi les gens me font peur?
C'est peut-être là que les Viet Kieu se sont vraiment tus. Au moment du crash de leur fantasme. Il y avait trop de honte, trop de désillusions. Tout ça pour ça. C'était dur à raconter. Ma grand-mère et Kim se taisent. En France, elles se retrouvent isolées. Kim dans son foyer, Gisèle dans son mariage, elles sont entièrement coupées de la communauté vietnamienne. C'est le moment de l'intégration. Le moment où ça devient utile d'enfouir encore plus profond les silences. Parce que ça donne l'illusion d'avancer. Elles prennent des petits boulots, parlent peu d'elles, se marient, ont des enfants.
Mais ça, c'est vrai, hein. Pourquoi on se tait ? Parce que ça nous fait tellement de la peine de le revivre qu'on va leur transmettre et que ça sert à rien. Ça va pas m'alléger ma peine et eux, ils vont même me culpabiliser. Peut-être qu'ils vont se dire, oh mon Dieu, il faudrait qu'on l'aime plus. Donc, je préférais, tu vois, qu'ils ne sachent rien, quoi. Qu'ils croient que... Ben, que j'ai poussé comme ça.
Mais la bosse, des choses cachées sous le tapis, grossit. Et les silences commencent à se voir.
Très vite, très tôt, j'ai senti qu'il y avait des non-dits.
C'est le trou noir, quoi, en fait.
Il fallait pas trop savoir ce qu'il y avait derrière ces non-dits.
Donc il y a toute une période de sa vie, on ne le saura jamais, dont elle n'a pas parlé.
Et c'est le même ressenti pour Caroline, la metteuse en scène de Saïgon, dont la mère a eu un ictus amnésique.
Parce que finalement, mes parents ont évidemment passé énormément de temps à ne pas me faire sentir qu'ils avaient vécu quand même des choses extrêmement violentes. Moi, j'ai vraiment grandi dans un petit village de 600 habitants. Mais vraiment, j'ai passé toute une période de ma vie où j'étais à des kilomètres de la réalité de ce qu'avaient vécu mes parents.
En plus, pour les Viet Q, le silence autour du Vietnam est renforcé par 20 ans de guerre avec les Américains, puis 20 ans d'embargo.
Et elle recevait régulièrement des courriers qui annonçaient la mort de telle personne. Et ça, je m'en souviens très bien, j'étais petit, moi j'avais 4 ans, 5 ans. Elle recevait des courriers et puis elle se mettait à pleurer, parce qu'elle apprenait la mauvaise nouvelle. La nièce est morte dans un bombardement, lui, bombardement. Au sud, pareil, lui, il était dans les forces sud-vietnamiennes, il est mort. Il n'y avait pas forcément la télé qui annonçait les choses. Et elle le vivait en direct au travers des courriers qu'elle recevait. Moi, j'en souviens très bien, là, c'est... Où elle recevait le courrier, puis d'un coup, elle se mettait à chialer.
Il faut imaginer ce que ça fait de ne pas pouvoir revenir physiquement dans son pays pendant 40 ans. En plus, certains et certaines s'étaient évidemment imaginé un exil temporaire. On ne pouvait pas savoir que les Américains allaient arriver et que même après leur départ, on ne pourrait toujours pas revenir.
Ronald Reagan a été élu président des États-Unis. Le pays a voulu rapidement entamer une sortie du traumatisme vietnamien.
Alain Russiaux, historien de l'Indochine française.
Reagan est en quelque sorte le symbole de ce mouvement. Et donc, il y a eu une sorte de revanche, non plus par les armes cette fois-ci, mais par la politique contre le Vietnam. D'où la politique d'embargo qui a été mise en place immédiatement. Le Vietnam a été non seulement victime de cet embargo, donc à l'époque, la diplomatie française qui était dirigée par Giscard d'Estaing a emboîté le pas. Donc, il y a eu une sorte de volonté générale de l'Occident de prendre ses distances vis-à-vis du Vietnam.
Alors pour les Vietnamiens et les Vietnamiennes, en France, ces lettres et ces colis deviennent les seuls liens avec les familles et leur pays d'origine.
Moi, je m'en souviens très bien régulièrement des cartons, les valises de vêtements, de trucs, de cadeaux qu'elle envoyait au Vietnam. Je me dis, oh là, ils ont de la chance. En permanence, ouais, elle envoyait énormément de choses. Oh. Des kilos et des dizaines de kilos au Vietnam. Ma mamie, c'était la personne qui était allée en France et qui finalement continuait à les aider, quoi.
L'embargo durera jusqu'en 96. Alors dans les courriers, on dit que tout va bien. On envoie de l'argent, des médicaments. Le Vietnam ne devient plus que ça, une correspondance. Et à côté, on essaie de mener sa vie en France.
Elle faisait son maximum pour s'intégrer et que nous nous intégrions. Mais pas forcément avec l'aide de son entourage. Je parle du voisinage, je parle des amis, je parle de papy. Ils étaient complètement hermétiques à tout ça. Pour eux, c'était la chinoise, et même pour la belle famille.
Les deux mondes, tels que je les ai connus, se structurent ici, avec les enfants assignés évidemment à celui de l'intégration. C'est le moment dans ma famille où ma grand-mère n'a plus parlé vietnamien, où elle a envoyé ses trois enfants au catéchisme, où elle a misé sur eux pour réussir à l'école et s'élever socialement, et surtout...
Quand elle est arrivée en France, pour elle, c'était plus facile de dire « je m'appelle Gisèle ».
Où elle a changé de prénom.
Plutôt que de dire « Tan ». Cette notion de devoir s'intégrer, ça passait par là. Toutes les Vietnamiennes que je connaissais, que j'appelais moi Tata, elles avaient toutes des noms d'emprunt. Donc moi j'avais Tata Paulette, je l'appelais Tata Paulette.
Oui, mais c'était les prénoms qu'elles se choisissaient elles-mêmes.
Ah ben oui.
Bonjour, je m'appelle Gisèle. Enchantée, Gisèle.
Ça paraît fou qu'elle se soit baptisée comme ça d'elle-même. Moi, je n'avais pas du tout ce scénario en tête, mais je suis allée vérifier sur tous ses papiers et mon oncle a raison.
Et donc moi, je pensais qu'en gros, je sais pas, elle était arrivée en France, on lui avait dit « bah ma cocotte, prends un prénom français, ça va être plus facile pour toi ». On lui avait un peu imposé Gisèle. En fait, sur tous ses papiers d'identité, carte électorale...
Oui, c'était Tan.
Et personne ne leur a dit « tu t'appelleras Gisèle ». Juste, elle s'est dit « tiens ». Gisèle, ça a l'air sympa, je vais me le choisir comme nom d'usage.
Gisèle.
Ouais. Parce que c'était plus facile.
Facile. Elle n'a jamais réussi à prononcer Gisèle. Le Gise est super dur à dire en vietnamien.
Gisèle.
Elle n'a jamais parlé de ça, de son choix d'effacer son prénom, de le remplacer. Alors que ça en dit beaucoup sur les efforts qu'elle a dû faire toute sa vie pour tenter de s'intégrer.
Parfois, je faisais double cuisine pour elle et pour nous. Des steaks frites, du poulet rôti, de l'agneau pour Pâques. Ouais, la bûche. Tout ça, ça fait pas partie de sa culture.
Les deux prénoms, les deux menus, les deux langues. Finalement, les deux mondes vivent bien côte à côte. Mais de manière moins imperméable qu'on peut le penser. Il y a eu des transmissions passives, inconscientes, fantômes, entre le Vietnam et la France, entre Tan et Gisèle. Je l'appellerai maintenant Tan Gisèle, pour faire honneur non seulement au prénom qui lui a été donné, mais aussi à celui qu'elle s'est choisi. Les exilés sont entre deux rives. Ils ne veulent pas trahir leur culture d'origine, tout en essayant d'être de bons Français.
Moi, je suis polluée. Comme ça, c'est dit.
Je suis chez ma tante Rosemary à Avignon. On est assises, toutes les deux, sur son canapé. Et je lui demande si la cohabitation entre ces deux mondes a été apaisée pour elle.
Je suis polluée parce que, si tu veux, tu ne réagis pas 100% en tant que Française et tu ne réagis pas 100% en tant que Vietnamienne. Tu as les deux cultures que tu essaies de faire articuler de façon harmonieuse. Je suis métisse, hein, point. Ça s'arrête là. Maintenant, me dire que je suis bien dans une culture, bien dans l'autre, c'est difficile. J'essaie de prendre le meilleur des deux cultures. Est-ce que j'y arrive vraiment? J'en sais rien, mais en tout cas, j'essaie de prendre ce qu'il y a de meilleur. Tu ne peux pas ignorer que tu es asiatique, qu'on soit clair, tu ne peux pas. Quand on est métisse, je pense qu'on est à la frontière des deux cultures, et la française et l'asiatique toute sa vie. Et que même si on essaie de s'en affranchir, qu'on le veuille ou pas, il y a des restes que tu transmets aux tiens.
Avant de dire qu'elle est métisse, ma tante utilise le mot « polluée ». C'est éloquent et désarmant en même temps, comme deux héritages non miscibles, comme de l'huile et de l'eau. En même temps, il faut dire qu'on lui a toujours présenté comme ça.
J'ai observé une grande difficulté de transmettre au sein des familles d'origine asiatique. Il y a certains froids et puis il y a même certains conflits intergénérationnels que j'ai pu observer.
Simeng Wang est sociologue.
Sociologue, chargée de recherche au CNRS.
Et chargée de recherche au CNRS.
Je suis également coordinatrice scientifique du réseau MAF, Migration Asiatique en France.
Elle a interrogé des dizaines d'asio-descendants sur les transmissions au sein des familles.
En fait, beaucoup de descendants et descendantes souffrent de cette... non-transmission, ou bien simplement, sans parler de la volonté de transmettre ou pas de la part des parents ou des grands-parents, de ce silence. de ce silence au sein de la famille, de ne pas être capable de discuter des choses au-delà de manger, dormir, des besoins basiques. Et donc, il y a plusieurs descendants et descendantes qui m'ont sorti le modèle de Maslow pour parler justement les différents niveaux des besoins humains. Ils m'ont parlé justement de cette insatisfaction hein, par rapport aux non-communications. Par exemple, ils parlent très peu de politique, ils parlent très peu du pays d'origine, ils parlent très peu de culture asiatique de façon intellectualisée.
La pyramide de Maslow, dont parle Simeng Wang, c'est une manière de schématiser la hiérarchie de nos besoins. Tout en bas, on trouve les besoins physiologiques, manger, dormir, et plus on monte, plus les besoins sont sophistiqués et non vitaux, comme l'appartenance, l'estime, l'accomplissement. Elle a été inventée par un psychologue, Abraham Maslow, d'où son nom. Ce que disent les descendants, c'est en gros, on ne parle que de manger, dormir et travailler. Mais quand la question a été, est-ce qu'on va survivre ? On peut comprendre que le reste devienne dérisoire.
Ce que m'a dit ma mère, tu peux aller à l'école, tu peux manger, tu peux être soigné, voilà, dis merci, t'as beaucoup de chance, quoi, voilà.
Dans le « dis merci », il y a aussi le « ne dis rien d'autre », comme si les descendants recevaient le silence de leurs parents en héritage.
Je m'appelle Mélanie Hong, je suis française d'origine chinoise et vietnamienne, je suis née à Paris en 89, et aujourd'hui, je suis productrice de podcast, mais aussi présidente de l'association Asiatitude.
C'est Kim qui m'a parlé de l'association de Mélanie. Elle œuvre pour faire exister médiatiquement la communauté asiatique en France. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Caroline et elle me parlent de leur manière de se réapproprier leur histoire, de prendre du recul face au silence de leurs parents.
Mes parents sont la première génération en France, arrivée dans les années 70 parmi les boat people, etc. C'est des personnes qui sont venues en France et la France était leur terre d'accueil. C'était leur terre de vraiment leur oasis. Quand ils sont arrivés, ils étaient reconnaissants d'avoir un accueil, d'avoir un toit. Ils étaient reconnaissants à la France de manière générale. Et manifester ou se plaindre de choses de leur pays d'accueil, c'était inimaginable. Moi, j'ai toujours entendu dans ma famille, sois reconnaissant, ton pays c'est la France, c'est la France qui t'a nourri, c'est la France qui t'a fait comme tu es, sois reconnaissant. Et en fait, ce discours que je peux comprendre de mes parents a fait que eux, c'était inimaginable qu'ils contestent quoi que ce soit. Quoi que ce soit, même s'il y avait des injustices, c'était pas possible. Tout était ridicule par rapport au fait de ne pas avoir à manger et de pas avoir de toit.
Ça explique aussi le peu de discussions au sein de la famille à propos des émotions, des ressentis, de l'art, de la politique, de l'histoire ou de tout élément un peu plus abstrait.
Moi, la question de la colère, par exemple.
Caroline Guiela Nguyen.
C'est quelque chose que j'ai mis du temps à...
Metteuse en scène de la pièce Saigon.
J'ai mis du temps à la choper et c'était très important que j'y sois arrivée. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup intégré cette espèce de reconnaissance éternelle de nous avoir accueillis, quoi. Enfin, tu vois, ce que porte ma mère, quoi. Je pense que la colère des camps dans lesquels ils sont allés, la façon dont ils ont été accueillis, la façon dont leur est interdissé de parler le vietnamien, la façon dont ils n'ont pas eu d'argent. Donc... En fait, j'ai dû me la construire, cette colère. Je ne l'ai pas du tout eu en héritage.
Et par exemple, ta mère, elle trouve ça bizarre que tu sois en colère ?
Ma mère, elle me dirait là, mais comment tu peux dire des choses comme ça à la radio, surtout ?
On touche du doigt une image qui colle à la peau des diasporas asiatiques, celle de la communauté dite modèle. Mais les nouvelles générations ont bien compris que ce mythe a signé aussi à une forme de silence. Elles ont envie de sortir de la reconnaissance feutrée, qui était jusqu'ici de mise.
Aujourd'hui, c'est une revendication.
Mon oncle Eric.
Aujourd'hui, les nouveaux arrivants revendiquent justement la transmission de la culture, ne pas oublier... Sachez d'où vous venez, sachez quelles sont vos racines, c'est une revendication. Mamie, comme elle a vécu autre chose, c'était l'intégration à tout prix. S'intégrer au point même de ne pas divulguer, enfin de ne pas transmettre aux enfants la culture.
Mais ça te fait bizarre, par exemple, que moi je me lance là-dedans. Tu te dis, tiens, c'est loin quand même pour elle, l'histoire de mamie ou...
Ben parce que oui, non mais toi, t'as une autre vision. Toi, t'as une vision un peu idyllique de la chose. Moi, dans mon cas, alors peut-être Liane, peut-être Rosemary, c'était dur parce qu'il fallait aussi, ben, on était confrontés à l'époque qui était dure et il y avait du racisme, quoi. Moi, j'ai subi, hein. Moi, je m'en souviens, il y a de la castagne et tout. Hein. Moi, t'avais beau être petit, tu sentais bien la différence, on te le disait. Hein. Et le japonais, le chinois, et le truc, qui pour eux, la différence, c'était la différence, quoi.
Je suis d'accord avec lui. C'est plus facile pour moi de me questionner. Je peux combiner mes cultures familiales avec plus de légèreté parce que je suis de la troisième génération, que je suis pas typée. J'ai la chance de pouvoir explorer, questionner, chercher. Et il faut plusieurs générations pour raconter l'exil.
C'est comme si on a besoin de quelqu'un, peut-être de la diaspora, qui va vraiment secouer les choses.
Christopher Gaucha, spécialiste de la guerre d'Indochine.
Je pense que c'est important de secouer de temps en temps, et en ce qui concerne la guerre d'Indochine, devant ce silence omniprésent, on a besoin que quelqu'un crie.
J'aime bien cette image. Mais pour moi, les cris sont protéiformes et collectifs. Il ne s'agit pas de quelqu'un, mais de quelques-uns et quelques-unes. Alors qu'est-ce que ça change quand les descendants se questionnent, creusent et commencent à porter de nouveaux récits ? Est-ce que les mémoires d'Indochine peuvent encore être sauvées ?
Merci pour votre écoute et merci au journal Libération d'être partenaire de Ma Tonkinoise. À cette occasion, Louis vous offre un mois d'abonnement gratuit à Libération sans engagement. Rendez-vous sur libé.fr/code promo et entrez le code Louis tout en majuscule. Vous n'aurez même pas besoin de votre carte bancaire. Bonne lecture et bonne écoute.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.